France Musique.
Bonjour à tous. Hier était le premier du mois, on aurait dû faire le sommaire de Diapason, mais comme c'était mercredi, le petit poucet a pris le dessus. Rattrapage aujourd'hui avec au programme Maurizio Pollini, Benjamin Allard, Peter Gelb ou la sixième de Jean Sibelius. 16 heures en disque de légende, également venu du Diapason, le Magnificat d'Arvo Pärt par Tonu Kaljuste. Et on refermera cette émission avec un coup de cœur, l'hommage à Lionel Tertis de l'altiste Timothy Readout. Mais tout de suite, on entre dans le diapason du mois.
Thank you.
L'andante de la sonate opus 19 de Serge Rachmaninoff par Chekou Kané-Masson au violoncelle et sa sœur Issata Kané-Masson au piano. Chekou, en Grande-Bretagne, c'est le plus célèbre musicien de la nouvelle génération, pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas strictement musicales. Il est le fruit d'un métissage caribéen, sierra-léonais et gallois, noir de peau dans un monde classique plutôt blanc, radicalement même. Chekou Kané-Masson analyse d'ailleurs très intelligemment le sujet, disant à la fois que le monde classique n'est pas consubstantiellement raciste, seulement qu'on y trouve des formes de discrimination, comme il s'en manifeste au quotidien, un peu partout dans la société, milieu pas très différent des autres au fond. Plus strictement musical, un autre entretien avec Benjamin Allard, qui s'exprime lui sur Gustav Leonhardt, cette sorte de statue de commandeur dans le monde de la musique ancienne, une influence qui est lente à se dissiper, dit-il. Et Benjamin Allard ajoute, comme pour se différencier, « J'avoue une obsession pour le rythme, la carrure, la danse. Sans le rythme, les choses sont vides. »
Thank you.
le prélude de la suite anglaise en ré mineur, la sixième, de Jean-Sébastien Bach, par Benjamin Allard au clavecin, extrait du dernier disque de son intégrale de l'œuvre pour clavier de Bach, toujours en cours. Autre entretien encore dans le diapason du mois de mai, avec Peter Gelb, le patron depuis 18 ans déjà du Metropolitan Opera de New York, toujours passionnant car très pragmatique sur son métier, lucide aussi. Il avoue une situation budgétaire délicate pour le Met, même si le public est revenu après la séquence Covid. Il évoque sa politique en direction de la création, il fait extraordinairement des œuvres nouvelles, le recours pour renouveler le public et assurer l'avenir. Et puis Peter Gelb déclare encore « Un des grands problèmes des États-Unis, c'est que les inégalités ne cessent de s'y creuser. Les hyper-riches accumulent des milliards, mais ils ne soutiennent pas les arts, n'en voyant pas l'importance. Toute la difficulté est donc d'arriver à les convaincre. » Anna Netrebko dans un extrait des Puritains de Vincenzo Bellini, enregistré en 2007 au Metropolitan Opera de New York.
France Musique, relax, Lionel Esparza.
Une déclaration d'amour dans le diapason du mois de mai et un hommage ému à Maurizio Pollini, décédé le 23 mars. C'est sous la plume de Laurent Muraro qui écrit, toujours en costume cravate, « Pollini parlait peu, fumait beaucoup, lisait Proust ou Shakespeare dans le texte, appréciait des musiciens aussi éloignés de lui que Cortot ou Furtwängler, mais sans légende, l'homme Pollini a su rester dans l'ombre de l'interprète durant toute sa carrière. » Le voici Maurizio Pollini dans deux brefs mouvements, les deux brefs mouvements qui constituent la 22e sonate de Beethoven.
Thank you.
Les deux mouvements de la sonate opus 54 de Ludwig van Beethoven par Maurizio Pollini. L'œuvre du mois du diapason de mai, c'est la 6e symphonie de Jean Sibelius. Carte gagnant des grandes versions, Karajan à Berlin en 66, Paavo Berglund à Bournemouth en 1973, Oko Kamouf avec l'Orchestre de Lahti en 2014, et puis celui que j'ai choisi de vous faire entendre aujourd'hui, Vladimir Ashkenazy à Stockholm en 2006. Je cite le commentaire de Patrick Cersnovich. Vladimir Ashkenazy surprend, enchante et captive par sa force d'impact, l'audace, la souplesse de ses phrasés et sa mise en valeur de formidables tensions sous-jacentes. C'est l'outsider de notre discographie. Et c'est donc celui que nous allons écouter ici, le premier mouvement de cette 6e symphonie par Vladimir Ashkenazy. Le premier mouvement de la 6e symphonie de Jean Sibelius, Vladimir Ashkenazy et l'Orchestre Philharmonique Royale de Stockholm.
France Musique, relax. Lionel Esparza.
Et on poursuit la lecture du diapason du mois de mai avec un beau dossier d'une dizaine de pages sur Johannes Brahms à travers 15 œuvres fondamentales. C'est une belle manière de retracer une vie de création avec quelques grands piliers comme ça, depuis la 3e sonate jusqu'aux 4 chants sérieux, en passant par le 1er concerto, le Requiem allemand, la 3e symphonie. Des œuvres qui à chaque fois font passer un cap, infléchissent l'esthétique, approfondissent l'écriture. Brigitte François Sapé nous raconte comment et pourquoi chacune de ces œuvres est centrale dans le parcours brahmsien. Alors j'ai choisi dans cet ensemble peut-être l'œuvre la plus légère pour celui qui travaillait tant et tant avec des ensembles vocaux. C'est Liebeslieder Walzer de 1870.
Nur stehen, nur stehen, nur stehen.
Johannes Brahms, les dernières Liebeslieder Walzer, opus 52, dans cette très belle version de 2007 avec Camillo Radicke au piano et parmi les voix Marlies Petersen ou Werner Gura. Enfin, il y a encore une déclaration d'amour à un pianiste au rayon des mythologies dans le diapason du mois de mai. Laurent Muraro à nouveau retrace la vie de Friedrich Gulda avec en sous-titre « Liberté, j'écris ton nom ». C'est vrai que s'il y eut un pianiste libre, eh ben c'était bien lui. Je cite « Un sacré drôle d'oiseau avec son allure de hippie tout juste descendu de son ashram, calotte vissée sur le crâne, clope au bec et chemise aux couleurs criardes. Personnalité aussi fascinante qu'agaçante, passé maître dans l'art de la provocation. Friedrich Gulda n'aimait rien tant que secouer un milieu classique trop conformiste à ses yeux. On en oublierait presque qu'il fut avant tout l'un des pianistes les plus brillants et les plus inventifs de la seconde moitié du XXe siècle. Thank you. les trois derniers préludes du livre 2 de Claude Debussy, Canope, les tierces alternées et Feux d'artifice, étaient joués au piano par Friedrich Gulda. Ainsi s'achève notre sommaire du diapason de mai 2024. Il vient de sortir. Il est disponible dans tous les bons kiosques. Il est encore 15h59.
France Musique, disque de légende. Lionel Esparza.
Et tout de même, soyons justes, notre disque de légende du jour est également pris dans le diapason de ce mois de mai. C'est l'île déserte de Benoît Fauché, Arvo Pärt par Tõnu Kaljuste et le chœur de chambre d'Estonie. Arvo Pärt, le Gloria de la messe de Berlin, par le chœur de chambre philharmonique d'Estonie, l'orchestre de chambre de Tallinn et Tõnu Kaljuste à la baguette. Extrait, on peut le dire, de l'autre album qui fit connaître la musique d'Arvo Pärt. Le premier, ça avait été le florilège instrumental célèbre, intitulé Tabula Rasa, avec Gidon Kremer, révélation d'une musique et d'un langage, ce style tintinnabuli fait de longs et grands accords parfaits. 9 ans après, donc, côté musique vocale, et toujours, sous le label ECM, le chœur de chambre d'Estonie donnait trois grandes pièces, la messe de Berlin, dont on vient d'écouter un extrait, le Te Deum et puis le Magnificat de 1990, que ce disque a fait véritablement connaître et qui est devenu depuis un classique pour tous les chœurs du monde entier, professionnels comme amateurs. Un disque qui crée de toutes pièces un répertoire, c'est quand même pas tous les jours. Le Magnificat d'Arvo Pärt, chanté par le chœur de chambre philharmonique d'Estonie, à la direction Tonu Kaljuste, extrait de cet album intitulé Tédéum, paru chez ECM en 1993. Aujourd'hui, disque de légende, à retrouver et podcasté sur le site de France Musique et sur l'application Radio France.
France Musique, relax, Lionel Esparza.
Il nous reste une vingtaine de minutes à passer ensemble. On va le faire avec un disque tout récent, superbe vraiment. Réalisation parfaite, programme original. On le doit à l'altiste britannique Timothy Ridout.
Thank you.
Première rencontre d'Eric Coates, joué par Timothy Readout à l'alto, James Bayeux au piano, extrait du dernier album de l'altiste Timothy Readout, qui est intitulé cet album Lionel Turtis Celebration. Alors, il faut préciser, Lionel Turtis était un altiste anglais, l'un des premiers à se faire connaître sur son instrument, il a trouvé une véritable notoriété internationale au début du XXe siècle. Il avait étudié d'abord le violon à Leipzig et puis à Londres, un de ses professeurs lui avait conseillé de passer à l'alto, ce qu'il fut en cultivant une sonorité particulièrement riche et profonde, très virtuose aussi. Plein de compositeurs écrivirent donc à son intention, comme Arnold Bax ou Frank Bridge, pour ne citer que. Je signale enfin que Lionel Turtis est mort à l'âge respectable de 98 ans, en 1975. Timothy Readout lui consacre donc un bel hommage autour de pièces que Turtis a inspirées ou qu'il a jouées, tout simplement. Thank you. Fritz Kreisler, prélude et allegro dans le style de Pugnani. C'était un arrangement d'Alan Arnold et Timothy Readout. C'est lui qui joue ici à l'alto avec à ses côtés au piano Franck Dupré. Alors, il faut dire aussi deux mots de Timothy Readout qui est né à Londres. Il a aujourd'hui 29 ans. Il étudie à la Royal Academy of Music avant de se perfectionner auprès de Nabucco Imai. Je vous passe tous les prix au concours qu'il a remporté. C'est pas le plus important. Enfin, il fait vraiment partie des jeunes musiciens qui ont le vent en poupe en Grande-Bretagne. C'est mérité parce qu'il a, on l'a entendu ici, une magnifique sonorité, un son très clair, juste à tous les niveaux, éloquent, sans exagération. On va s'en rendre compte dans ce qui suit. C'est une version qu'il donne dans ce disque de l'élégie de Gabriel Fauré. Vous allez me dire, c'est normalement pour le violoncelle. Ben oui, lui, il la porte à l'alto, cette élégie, avec le son un peu moins sombre qui donne un caractère peut-être plus passionné encore. Belle version presque violente de l'élégie opus 24 de Gabriel Fauré. Arrangement pour l'alto justement de Lionel Turtis, et c'était joué ici par Timothy Readout avec Franck Dupré au piano sur ce disque qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Lionel Turtis Celebration, que j'adorais ce disque, vous l'aurez compris, donc on va en avoir même un dernier extrait sous forme de bis avant de refermer cette émission, puisque je connaissais absolument pas auparavant. William Wolstenholme, si vous connaissez même le nom du compositeur, avec cette question et réponse. C'est la question qu'on va écouter ici. La question de William Wolstenholme, arrangée par Lionel Turtis, jouée à l'alto par Timothy Readout, au piano James Bayeux. Le dernier disque de Timothy Readout vient de paraître chez Harmonia Mundi. Un grand merci à Martine Moni et Thomas Guineau-Gagne. Je vous laisse avec Anne-Charlotte Raymond.
À réécouter sur francemusique.fr.